Vous écoutez On lit pour vous.
Bientôt du sang de labo à 100%? Un texte de Marine Corneau paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Produira-t-on un jour du sang en laboratoire pour s'affranchir des dons humains? Le lancement récent d'essais cliniques marque une étape importante dans ce parcours semé d'embûches. Les personnes les plus héroïques sont souvent les plus discrètes. C'est ce qui vient à l'esprit lorsqu'on voit arriver, d'un pas hésitant, les donneurs et donneuses invités par Emma Québec à l'occasion d'une soirée annuelle de reconnaissance. En ce soir de novembre, le chic des tenues contraste avec les sourires timides et la gêne palpable de ces gens ordinaires qui ne savent pas trop où se placer dans la salle de réception de l'Hôtel Universel dans l'Est de Montréal. Catherine Viaud, directrice stratégie marketing d'Emma Québec, accueille tout ce beau monde avec un large sourire. « Nous attendons entre 150 et 200 personnes, principalement des donneurs de sang, de plasma, de plaquettes. » Ce sont des gens qui ont tous plus de 100 dons à leur actif. Nous avons même un donneur qui a effectué plus de 1000 dons, lance-t-elle. Pas étonnant qu'il y ait beaucoup de têtes grises ce soir. Pour atteindre un tel nombre de dons, il faut faire preuve de constance et de régularité. Les hommes peuvent donner du sang total jusqu'à 6 fois par an et les femmes jusqu'à 4 fois. Les dons de plasma et de plaquettes, eux, sont possibles plus fréquemment. Mon voisin de banquette, un septuagénaire qui a fait le déplacement avec sa femme depuis la rive nord, donne régulièrement ses plaquettes. J'ai fait 200 dons. Je sais que mes plaquettes sont qualifiées pour être données aux enfants, alors je donne environ 1 fois par mois, dit-il. Dans le monde, les hémorragies sont responsables d'au moins 40% des décès associés à un traumatisme et de plus du quart des morts maternelles lors de l'accouchement. Au Québec, une personne a besoin de sang toutes les 80 secondes à la suite d'un accident, lors d'une intervention chirurgicale ou encore pour traiter une maladie. Et avec le vieillissement de la population et l'augmentation de la fréquence de certains cancers, la demande en sang ne cesse de croître. Au Canada, elle devrait augmenter de près de 10% au cours des 5 prochaines années. Autant dire que les besoins sont immenses et continus. En effet, le sang et ses sous-produits, globules rouges, plaquettes, plasma, ne se conservent pas longtemps. Les plaquettes peuvent être stockées pendant 5 jours et les globules rouges pendant 42 jours seulement. Si bien que le Québec a besoin d'environ 1000 dons par jour, mais pas plus, pour ne pas gaspiller. On comprend pourquoi des scientifiques cherchent, depuis des décennies, à s'affranchir des dons humains et à mettre au point du sang artificiel, qui pourrait être sécuritaire, disponible en tout temps, en quantité suffisante et se conserver longtemps. Depuis plus d'un siècle, tout, ou presque, a déjà été tenté. Injection de lait, en 1854, de plasma animal, substitut d'hémoglobine, cellules produites en laboratoire, globules rouges synthétiques, sans grand succès. Les recherches actuelles se concentrent sur les globules rouges, dont le rôle est de transporter l'oxygène à tout l'organisme et dont la baisse est fatale en cas d'hémorragie. Le plasma, lui, peut être facilement remplacé par de l'eau saline. Les plaquettes, qui aident à la coagulation, font aussi l'objet de travaux actifs. Cela fait très longtemps qu'on en parle en recherche. Peut-être qu'à un moment, quelqu'un va trouver la façon de produire massivement des globules rouges. Mais je ne vois pas ça avant beaucoup d'années, avertit d'emblée René Bazin, directrice scientifique aux affaires médicales et à l'innovation chez Emma Québec, où elle travaille depuis la fondation de l'organisme en 1998. Il n'empêche, il y a toujours des équipes de haut niveau qui travaillent sur ce sujet. Aucun pays ne s'est désengagé, et il y a eu des percées, nuance son collègue Amaury Gossan, conseiller à l'information scientifique. Il est vrai que les choses s'accélèrent. C'est triste, mais la guerre en Ukraine a ravivé l'intérêt pour ces recherches. En Ukraine, ils utilisent 20 % de plus de sang qu'avant le conflit. On sait que les pays occidentaux, en cas de besoin, pourraient augmenter leur production de 2 à 3 % mais pas plus, indique Cédric Gevaert, hématologue titulaire de la chaire de médecine transfusionnelle à l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni. Son équipe a réalisé l'une des plus grandes avancées dans le domaine, en injectant pour la première fois à des volontaires des globules rouges entièrement produits en laboratoire. L'essai clinique en question, nommé RESTORE, Recovery and Survival of Stem Cell Originated Red Cells, a débuté en 2022 auprès de 10 personnes en bonne santé. Si les analyses ne sont pas encore terminées, le dernier volontaire ayant reçu sa transfusion en septembre 2025, RESTORE marque un tournant en montrant que les globules rouges de laboratoire sont bel et bien utilisables. On espère susciter un engouement et des investissements, lance le chercheur, notant que ce type de recherche a toujours été majoritairement financé par les forces armées. Au Québec, près d'une personne sur sept a déjà reçu une transfusion. Vous écoutez « Bientôt du sang de labo à 100 %? » Un texte de Marine Cornu, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Quelques cuillères à thé. L'idée de RESTORE fait rêver. Il s'agit de cultiver des globules rouges en grand nombre, en les multipliant dans des boîtes de pétri à partir de cellules souches, puis de les injecter à la demande. Du moins, c'est le plan, si l'essai s'avère concluant. Dans l'organisme, l'usine à globules rouges se situe dans la moelle osseuse, un tissu gélatineux localisé au centre des gros os. On y trouve les cellules souches hématopoïétiques, des cellules inépuisables qui se différencient pour produire toutes les cellules du sang, globules rouges, mais aussi globules blancs et plaquettes. Certaines de ces cellules souches circulent aussi dans le sang, en petit nombre. On est parti d'une poche de sang normale d'un donneur et on a extrait les cellules souches hématopoïétiques circulantes. En 20 jours, on a obtenu quelques millilitres de nouveaux globules rouges que l'on a marqués avec un traceur radioactif, inoffensif, pour pouvoir les suivre plusieurs semaines dans l'organisme du receveur, explique Cédric Gevaert. La recette de cette culture, découverte il y a moins de 15 ans, consiste à transformer, étape par étape, des cellules souches en globules rouges. En cours de route, on fait proliférer les cellules. Un demi-million de cellules souches donne environ 50 milliards de globules rouges. Chaque volontaire a reçu deux transfusions à 6 mois d'écart, afin qu'on sache si les globules rouges de laboratoire vivent aussi longtemps ou plus que les globules normaux dans le sang, explique le chercheur, précisant que chaque personne a reçu des cellules provenant d'un donneur compatible. Le but de l'essai RESTORE, dont les résultats seront connus mi-2026, était de tester la viabilité de ces globules rouges de culture. On en a donc injecté très peu, l'équivalent d'une à deux cuillères à thé, soit 1/100 de ce qui est généralement administré lors d'une transfusion médicale. Le hic, c'est qu'on est encore loin de savoir fabriquer des quantités industrielles de globules rouges. Il est difficile de concurrencer notre moelle osseuse qui, chaque jour, en produit environ 200 milliards, soit 2 millions par seconde, tout de même. L'entreprise américaine Safi Biotherapeutics a toutefois passé un cap, début 2026, en produisant des globules rouges dans des bioréacteurs de 10 litres. C'est déjà mieux qu'une boîte de pétri. Cédric Gevaert se montre optimiste. Il y a eu énormément de progrès dans la production à plus grande échelle et la réduction du coût des cultures. Je pense que d'ici 4 à 5 ans, on verra des essais cliniques testant les globules produits par ces nouveaux procédés et qu'on pourra les utiliser en clinique dans 10 ans, à petit volume. Ainsi, Le but n'est pas de remplacer toutes les transfusions par des injections de sang de laboratoire. Ce serait impensable sur le plan des coûts et de la logistique. Selon l'hématologue, ces globules rouges pourraient surtout bénéficier aux personnes qui reçoivent des transfusions tout au long de leur vie, par exemple celles qui souffrent de thalassémie, des maladies héréditaires caractérisées par une production réduite d'hémoglobine. Ces gens ont besoin de transfusions toutes les 2 ou 3 semaines. L'un des effets secondaires, c'est qu'ils accumulent beaucoup de fer dans tous leurs organes. Ils en reçoivent plus que ce que leur organisme peut éliminer. Ils ont des problèmes de cœur, de foie. Si on leur donne des cellules du labo, on espère qu'elles resteront en circulation plus longtemps, car elles sont toutes neuves, contrairement à celles d'une poche de sang dont certaines sont déjà en fin de vie. On espère ainsi pouvoir augmenter l'intervalle de transfusion à 4 ou 6 semaines, ce qui serait un progrès. Reste que les globules rouges de laboratoire sont des cellules vivantes et périssables. Ils ne sont pas facilement transportables hors de leurs incubateurs. C'est pourquoi d'autres scientifiques explorent une voie plus chimique qui consiste à s'affranchir des cellules pour se concentrer sur la fonction première du sang, le transport d'oxygène. Pour produire 1 à 2 cuillères de globules rouges, il faut 24 litres de solution de culture. Vous écoutez « Bientôt du sang de labo à 100%? » Un texte de Marine Corneau, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Transporteur d'oxygène. Plus précisément, c'est un pigment contenu dans les globules rouges, l'hémoglobine, qui joue ce rôle de chariot à oxygène, livrant le précieux gaz à toutes les cellules du corps. Alors, pourquoi ne pas utiliser de l'hémoglobine, naturelle ou artificielle, et l'insérer dans des transporteurs biochimiques? Là encore, d'innombrables tentatives ont été lancées dès 1934, mais les essais ont tous été décevants, voire dangereux, entraînant parfois des complications cardiaques graves. Mais sur ce plan aussi, on s'améliore. Aux États-Unis, une équipe de l'Université du Maryland, menée par Alan Doctor et financée par la Défense américaine, a mis au point une poudre à base d'hémoglobine séchée extraite de globules rouges périmés. Le produit, appelé Erythromare, est utilisable sur le terrain, loin des réfrigérateurs. Il pourrait entrer en essai clinique d'ici 2 ans, selon le médecin. Au Japon, des scientifiques de l'Université de médecine de Nara ont lancé en 2025 des essais avec un produit similaire, encapsulé dans une bulle de lipides qui peut se conserver 2 ans. Jusqu'ici, une douzaine de volontaires ont reçu jusqu'à 400 millilitres de cette substance, sans subir d'effets secondaires ni de réactions immunitaires. Les essais se poursuivent et l'équipe espère obtenir une autorisation de mise sur le marché vers 2030. Cette approche me semble plus prometteuse à court terme que les globules rouges cultivés. À mon avis, tout se résume à la fabrication et au coût, et sur ces 2 points, les transporteurs d'hémoglobine sont aujourd'hui plus avancés que les technologies basées sur les cellules souches, estime Kate Neves, professeur de bio-ingénierie à l'Université du Colorado et auteur d'un article sur le sujet pour le média Asimov Press. Sauf que, dans les travaux américains et japonais, la matière première reste l'hémoglobine humaine. Périmée, certes, mais provenant tout de même de dons. La logistique de production reste donc complexe, autant que le contrôle qualité, pour éviter toute contamination potentielle par des agents infectieux. Mais ça avance, assure Amaury Gossan, chez Emma Québec. Beaucoup de pays riches doivent faire face au vieillissement de leur population. Le jour où le sang de laboratoire arrivera, ce sera vraiment une révolution. En attendant cette révolution, à l'Hôtel Universel à Montréal, un souper s'apprête à être servi à l'Assemblée de donneurs et de donneuses, entrecoupée de discours de remerciements, d'animations et de vidéos sur la mission d'Emma Québec. Ces soirées sont une occasion de souligner l'apport extraordinaire de ces personnes qui contribuent de façon bien tangible à la santé des Québécoises et Québécois, souligne Catherine Viau avec émotion, et qui continueront à sauver des vies encore longtemps. On trouve 60 millions de globules rouges dans une goutte de sang. Le sang et ses composants. Le don de plasma sert principalement à fabriquer des médicaments vitaux, immunoglobine, albumine, facteurs de coagulation. Les globules rouges apportent de l'oxygène à tous les organes et évacuent le CO2. Les globules blancs se chargent de la défense immunitaire, alors que les plaquettes jouent un rôle essentiel dans la coagulation, formant des bouchons dès qu'il y a une brèche dans un vaisseau. Il est possible de donner du sang total, prélevé tel quel, les différents éléments étant ensuite séparés par Emma Québec, du plasma seulement ou des plaquettes seulement. Un appareil fait alors le tri pendant le don et réinjecte les autres composants. L'épineuse question des groupes sanguins. Avant toute transfusion, il faut s'assurer que le sang que l'on administre est compatible avec celui du receveur ou de la receveuse. Si tout le monde connaît les groupes ABO et le rhésus, positif ou négatif, on peut être par exemple AB+ ou O-, la question de la compatibilité sanguine est beaucoup plus complexe. Il existe de nombreux autres systèmes de classification, KEL, Duffy, KID, tout aussi importants pour la transfusion. On recense au total 48 systèmes sanguins, le dernier ayant été découvert en 2025. Tous ces systèmes correspondent en fait à des marqueurs à la surface des globules rouges, comme autant de petits drapeaux qui définissent une carte d'identité biologique. Chaque personne a une combinaison unique de ces marqueurs. Lorsqu'on fait une transfusion à un ou une malade, son système immunitaire repère les drapeaux étrangers et produit des anticorps pour combattre les cellules qui les arborent. Lors des transfusions ultérieures, ces anticorps peuvent détruire massivement les globules rouges intrus, ce qui rend la procédure inefficace et potentiellement toxique, voire mortelle. Il est obligatoire que la personne qui donne et celle qui reçoit aient les mêmes groupes ABO et rhésus, car ce sont ceux qui déclenchent les réactions immunitaires les plus fortes. Mais lorsqu'un individu reçoit de nombreuses transfusions, il finit par générer des anticorps contre d'autres systèmes sanguins, par exemple le KEL et le Duffy. Ainsi, la liste des anticorps présents s'allonge et la compatibilité diminue. À ce chapitre, les globules rouges de laboratoire sont prometteurs. On peut les modifier pour supprimer les drapeaux à leur surface. C'est ce qu'a fait une équipe de l'Université Laval et d'Emma Québec en 2025. Yannick Doyon et ses collègues ont utilisé le système d'édition génomique CRISPR-Cas9 pour inactiver les gènes codants pour les marqueurs ABO et rhésus. L'équipe a ainsi produit des globules rouges de type O-. Ce sont ceux qu'on qualifie de donneurs universels, car ils sont compatibles avec la plupart des autres groupes sanguins. Cette technique pourrait être envisagée pour des personnes ayant des sangs très rares et se trouvant dans des impasses transfusionnelles, sans dons compatibles. Et les plaquettes? Les plaquettes ont longtemps été négligées par les scientifiques. Ces cellules dépourvues de noyaux, comme les globules rouges, sont néanmoins trois fois plus petites que ces derniers. Elles sont pourtant nombreuses, de 150 à 400 milliards par litre de sang, et ont une durée de vie très courte, 7 à 10 jours. Indispensables pour prévenir ou arrêter les saignements, elles sont majoritairement transfusées à des enfants atteints de leucémie. De nombreuses équipes et start-up tentent de les cultiver en bioréacteurs, mais comme pour les globules rouges, la mise à l'échelle est un défi. C'était « Bientôt du sang de labo à 100%? » Un texte de Marine Cornu, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
des trucs pour rendre son téléphone plus apaisant. Un texte de Catherine Hanfield, paru le 28 juin 2026 dans La Presse. Notification, déferlement de vidéos, effacement de la frontière entre le travail et la maison, le téléphone intelligent a le don de troubler la quiétude. Quelques trucs pour adoucir la chose. Intervenir, la clé. C'est en traversant une période anxiogène que Regina Calgagno a pris conscience d'un automatisme plutôt malsain. Lorsqu'elle se sentait anxieuse, elle plongeait dans son téléphone et en ressortait plus anxieuse encore. C'est là qu'elle a décidé de poser des actions concrètes. Par défaut, l'appareil est conçu pour nous stimuler beaucoup et solliciter constamment notre attention. Et si on n'intervient pas, c'est ce que ça va faire, souligne Caroline Campo, conseillère en prévention des risques liés à l'usage des écrans chez Pause. Intervenir demande un effort très conscient, dit-elle. Et ça va d'abord passer par la configuration de l'appareil, explique Caroline Campo. Notification. Regina Calgagno n'a plus de notification sur son téléphone. Pas de son, pas de pastille, rien. Faire le ménage des notifications est d'ailleurs le premier conseil de Caroline Campo. L'idée, c'est que ça vienne moins cogner à la porte, résume-t-elle. Dans certaines applications comme Teams ou Outlook, il est possible de configurer des périodes de tranquillité. Bannir les notifications non essentielles est à la fois simple et efficace, confirme Dasha Sandra, étudiante au doctorat en psychologie clinique à l'Université de Toronto et co-auteure de plusieurs études sur la dépendance au téléphone intelligent. On le programme, on l'oublie, et on regarde moins souvent son téléphone, résume-t-elle. Reclasser ses applications. L'écran d'accueil est l'écran qu'on aperçoit en premier lorsqu'on ouvre son téléphone. La clé? Se créer un écran d'accueil minimaliste, avec l'essentiel seulement. Téléphone, caméra, météo, etc. Il faut faire en sorte que l'écran d'accueil nous propose seulement ce qu'on a besoin de savoir dans l'immédiat, résume Caroline Campo. Dasha Sandra abonde. Sur mon téléphone, l'application Messenger de Facebook est sur le 9e écran. Et croyez-moi, je l'ouvre beaucoup moins souvent que si elle était dans l'écran d'accueil. Supprimer ou limiter les réseaux sociaux. Regina Calgagno a supprimé Facebook et Instagram de son téléphone. Lorsqu'elle veut aller sur Facebook, essentiellement pour visiter des groupes de discussion entre parents, elle utilise son ordinateur. Caméraman et photographe, Maxime Pilon-Lalande a lui aussi supprimé Facebook pendant un an avant de le réinstaller parce que la plateforme de petites annonces, Marketplace, lui manquait. Par contre, Maxime a modifié les paramètres de l'application Facebook pour voir uniquement les publications de ses amis sur son fil. On peut aussi se mettre des limites de temps. Caroline Campo, par exemple, se permet 30 minutes par jour sur Instagram. Fonction de base. Le téléphone intelligent est une porte d'entrée vers une infinité de possibilités, et sa simple présence consomme des ressources cognitives, souligne Caroline Campo. Ton cerveau sait que, derrière ton appareil, plein de choses t'attendent, résume-t-elle. La solution? Ramener l'utilisation de son téléphone à des fonctions précises, comme téléphoner, prendre des photos et consulter ses réseaux sociaux à des moments spécifiques, par exemple. On peut reléguer certaines tâches à son ordinateur seulement. Les réunions Teams, les transactions bancaires, etc. Si on a l'habitude de tout faire sur notre cellulaire, le téléphone devient un rappel constant de toutes ces choses qu'on pourrait être en train de faire, dit-elle. Loin des yeux, loin de l'esprit. On peut aussi éloigner physiquement son téléphone. En ce moment, mon téléphone est à l'autre bout de la pièce et il ne me vient pas à l'idée de le consulter, résume Dasha Sandra. Lorsqu'elle travaille, elle met son téléphone en mode silencieux et le dépose face contre table, derrière son ordinateur, pour ne pas le voir ni l'atteindre facilement. Autre idée, rendre l'ouverture de son téléphone plus complexe, en ajoutant un mot de passe plutôt que l'unique reconnaissance faciale. On peut aviser les gens de son entourage qu'on répondra dorénavant moins à son téléphone et qu'ils peuvent nous appeler au besoin, dit-elle. C'est ce que Regina a fait. Mon téléphone, ce n'est plus ma vie. C'est un téléphone, résume celle qui lit beaucoup plus depuis. Noir et blanc. Pour rendre son téléphone moins attrayant, Maxime Pilon-Lalande a modifié ses paramètres pour mettre l'affichage en noir et blanc. J'ai assigné le petit bouton sur le côté à ça. Donc, quand je prends une photo, je peux le remettre en couleur, explique-t-il. Les nuances de gris rendent le téléphone moins intéressant, moins stimulant, confirme Dasha Sandra. Selon les études, les gens diminuent carrément leur temps d'écran quand l'affichage est monochrome. C'était des trucs pour rendre son téléphone plus apaisant. Un texte de Catherine Hanfield, paru le 28 juin 2026 dans La Presse.